Etur Jesus Christus.
Les personnes âgées ne sont pas des restes de vie, des déchets à jeter. Ils sont précieux et comme le pain qui nourrit notre vie. C'est le cœur du message vibrant que le pape a lancé hier dimanche en la première journée des personnes âgées et des grands-parents. Tous les détails dans quelques secondes. À la une de l'actualité internationale, la Tunisie où le président a limogé son premier ministre et s'est octroyé les pouvoirs législatifs après une journée de manifestation. Un nouvel orient à une démocratie tunisienne fragilisée. Nous parlerons aussi de ce prochain rapport du GIEC, les experts du climat qui dévoilent leurs nouvelles prévisions. Ce document qui sera rendu public le 9 août est examiné à partir d'aujourd'hui par les représentants de 195 pays. Et puis il y a exactement 5 ans, le père Jacques Hamel tombait sous les coups de deux terroristes alors qu'il célébrait la messe dans une église de Rouen. Son diocèse lui rend hommage aujourd'hui. Plus encore que sa mort, c'est la vie de ce curé de paroisse ordinaire qui inspire les prêtres de sa terre natale. Témoignage en fin de journal.
Radio Vatican, le journal. Manuela Figi.
Bonjour à tous. Les grands-parents sont le pain qui nourrit notre vie. C'est donc le message transmis par le pape François hier pour la première journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. Une messe dédiée à ceux que le pape considère comme les trésors et les gardiens de la tradition a été célébrée en la basilique Saint-Pierre de Rome. Dans son homélie, lue par Mgr Rino Fisichella, le président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, le Saint-Père a plaidé pour une alliance renouvelée entre les jeunes et les grands-parents, axée autour de trois verbes, voir, partager et garder. Delphine Allaire.
Voir, partager et garder. Voir, car tout commence par le miracle du regard, celui du Christ qui n'est ni indifférent ni affairé. Et c'est avec ces yeux-là, attentifs et tendres, que les grands-parents et personnes âgées nous regardent après une vie souvent faite de sacrifices, a expliqué le pape lui-même âgé de 84 ans. Or, nous interroge François, quel regard avons-nous sur les grands-parents? Quelle est la dernière fois où nous avons tenu compagnie ou téléphoné à une personne âgée pour lui exprimer notre proximité? Je souffre quand je vois une société qui court, affairée, indifférente, absorbée par trop de choses, incapable de s'arrêter pour porter un regard, une salutation, une caresse, a regretté le successeur de Pierre, dénonçant cette société des foules anonymes. Car aujourd'hui, les grands-parents qui ont nourri notre vie ont faim de notre attention, levons les yeux vers eux, comme Jésus le fait avec nous, a exhorté le Saint-Père, plaidant pour une nouvelle alliance entre générations, pour partager le trésor commun de la vie. C'est tout le second verbe, partager, avant de passer au troisième, garder et conserver avec soin. Le pape invite à ne rejeter aucune personne âgée, elles ne sont pas des restes de vie, des déchets, au contraire, elles sont ces précieux morceaux de pain qui sont restés sur la table de notre vie et qui peuvent encore nous nourrir. Et le souverain pontife de souhaiter enfin que nous ne perdions pas la mémoire dont sont porteuses les personnes âgées, car nous sommes fils de cette histoire et sans racines, nous flétrirons.
Delphine Allaire, et c'est le pape François qui a récité la prière de l'Angélus hier depuis les fenêtres des appartements pontificaux. Il est revenu sur l'évangile du jour en Saint Jean qui raconte la multiplication des pains et des poissons. Un épisode qui nous fait réfléchir à la logique du don et du partage, grâce auquel Dieu fait des merveilles, a-t-il dit. Tous les détails sur vaticannews.va. Le pape qui a aussi évoqué les inondations qui ont dévasté la ville de Zhangzhou dans la province du Henan en Chine. « Je prie pour les victimes et leurs familles et j'exprime ma proximité et ma solidarité à tous ceux qui souffrent de cette calamité. » Ce sont les mots du pape alors que la ville pleure une soixantaine de victimes. L'Inde voisine est aussi touchée par des pluies de mousson depuis jeudi. Là aussi, les conséquences sont terribles. Inondations et glissements de terrain ont coûté la vie à 159 personnes et l'on est toujours à la recherche de dizaines de disparus. Ces pluies saisonnières ne sont pas nouvelles pour la population, c'est en revanche la montée rapide des eaux qui a surpris. Et c'est précisément à l'aune de ces catastrophes intenses et meurtrières qui marquent ce début d'été que les délégations de 195 pays se penchent à partir de ce lundi et pendant 15 jours sur le futur rapport du GIEC, les experts du climat, et qui doivent adopter le texte avant sa publication le 9 août. Jean-Charles Puzolu.
Les bouleversements climatiques mettent en lumière toute la complexité des relations entre la science et la politique, avec au milieu, on le voit à chaque jour ou presque, une déferlante de catastrophes naturelles. Le sixième rapport du GIEC tombera à quelques semaines du sommet de la COP26 en Écosse, et alors que s'ouvre aujourd'hui à Rome un pré-sommet sur l'alimentation avec au menu les liens entre agriculture et crise climatique. Car oui, le réchauffement de la planète, favorisant la désertification, rendra complexe l'organisation de l'humanité afin de pourvoir à ses besoins alimentaires. Le rapport du GIEC, dont une ébauche a fuité le mois dernier, tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Reste à savoir si les politiques, ceux qui représentent les 195 pays qui vont les plucher à partir d'aujourd'hui, prendront les responsabilités qui incombent pour rester fidèles aux accords de Paris signés en 2015, à savoir limiter le réchauffement en deçà de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Les politiques discutent, les scientifiques soulignent la nécessité d'agir maintenant. L'Agence internationale de l'énergie affiche un certain pessimisme. Elle prédit des émissions records de gaz à effet de serre d'ici 2023, vu la faible part des plans de relance consacrés aux énergies propres.
Jean-Charles Puzolu. C'est un coup de théâtre en Tunisie. Le président Kais Saied a limogé hier soir son premier ministre Hichem Mechichi et a suspendu les travaux du Parlement. Une décision qui intervient après une série de manifestations dans plusieurs villes du pays et qui témoigne, Olivier Bonnel, des tensions au plus haut niveau de l'État tunisien.
Oui, Manuela, nous allons annoncer d'autres mesures pour sauver la Tunisie. Le peuple tunisien doit continuer sa révolution en toute légitimité, a déclaré Kais Saied à l'issue d'une réunion d'urgence hier au palais présidentiel. Quelques minutes seulement après avoir limogé son premier ministre, le chef de l'État s'arroge pendant 30 jours le pouvoir exécutif avant de nommer un nouveau chef de gouvernement. Kais Saied a expliqué avoir pris des décisions que nécessite la situation afin de sauver la Tunisie, l'État et le peuple tunisien. Le ras-le-bol de nombreux Tunisiens est grand en effet face à l'incapacité des politiques de répondre à la crise économique, sociale et sanitaire. Hier encore, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté demandant un changement de régime et la dissolution du Parlement. De son côté, le principal parti d'opposition, Ennahda, a dénoncé un coup d'État du président. Cela fait des mois que le parti islamiste qui avait apporté son soutien au premier ministre sortant était en conflit avec le chef de l'État tunisien, une personnalité farouchement indépendante des partis. Si l'on ne sait pas encore quelles seront les conséquences politiques de ce limogeage, la décision de Kais Saied a en tout cas été fêtée dans le centre de Tunis par des centaines de personnes à coups de youyou et de klaxons.
Merci beaucoup Olivier. En Irak, plusieurs attentats étaient planifiés pour la fête de l'Aïd al-Adha, c'est ce que révèlent les services de renseignement. L'un d'eux, vous le savez, a visé le marché d'un quartier chiite de la capitale la semaine dernière, tuant une trentaine de personnes. La situation sécuritaire de ce pays, sa capacité à lutter contre les cellules encore actives de Daesh, autant de questions qui sont au cœur de la rencontre prévue aujourd'hui entre Joe Biden et le premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi, qui est attendu aujourd'hui à la Maison-Blanche. Les précisions d'Anne-Sophie Lemouf.
La visite à Washington du premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi ne devrait en aucun cas déboucher sur le retrait total des troupes américaines d'Irak. Au cœur de la rencontre Biden-al-Kadhimi, le partenariat stratégique entre Washington et Bagdad, ainsi que des discussions sur le retrait des troupes de combat d'Irak, 4 ans après la défaite du groupe État islamique à Mossoul. Officiellement, 2500 militaires américains sont encore déployés en Irak. Soumis aux pressions de groupes armés chiites proches de Téhéran, qui chaque semaine multiplient les attaques contre les forces américaines en Irak, Mustafa al-Kadhimi a réitéré que Bagdad n'avait pas besoin de troupes de combat américaines ou étrangères sur son sol, que l'Irak était capable de se défendre. Il a toutefois souligné la nécessité de voir des troupes américaines continuer d'entraîner les forces irakiennes. En réaction, ces groupes armés chiites ont d'ores et déjà promis d'accentuer les attaques jusqu'à les bouter hors d'Irak. À Bagdad, Anne-Sophie Lemouf pour Radio Vatican.
Au Nicaragua, la purge dans les rangs de l'opposition continue. Un nouveau candidat, la présidentielle, a été arrêté, accusé de porter atteinte à la souveraineté de l'État. C'est le 28e opposant incarcéré depuis des semaines. Le président Daniel Ortega fait le vide autour de lui en amont de l'élection du 7 novembre et se pave ainsi la voie pour un 4e mandat. Je vous parlais des inondations qui frappent une partie de l'Asie ainsi que le nord de l'Europe. Eh bien, l'ouest des États-Unis, lui, affronte comme chaque été des incendies dantesques. La Californie en particulier a vu des millions d'hectares de végétation partir en fumée. Cet incendie est si énorme qu'il a généré son propre climat et complique du coup la tâche des 5000 pompiers engagés sur le terrain. Et puis avant de passer à notre dossier, un petit mot des 32e Jeux Olympiques de Tokyo que le pape a béni hier après l'Angélus. En cette période de pandémie, que ces Jeux soient un signe d'espérance, de fraternité universelle sous la bannière d'une saine compétition. Que Dieu bénisse les organisateurs, les athlètes et tous ceux qui collaborent à cette grande fête du sport, a lancé le Saint-Père. Inaugurée vendredi dernier avec une année de retard à cause de la crise sanitaire du Covid, les compétitions réunissent au Japon en ce moment plus de 11 000 athlètes venus de 200 pays. Il est encore tôt, cette matinée du 26 juillet 2016, lorsque deux jeunes hommes pénètrent dans la petite église de Saint-Étienne-du-Rouvray, en banlieue de Rouen, en France, en pleine célébration de la messe à laquelle participent une poignée de fidèles. Se revendiquant de l'État islamique, les deux terroristes égorgent le célébrant, le père Jacques Hamel, âgé de 85 ans, et blessent gravement un autre fidèle, avant d'être abattu par la police. Le choc est général. Cinq ans après, le souvenir du père Hamel reste vivace. Des célébrations civiles et religieuses se tiennent aujourd'hui en présence de chrétiens et de musulmans et du ministre français de l'Intérieur. Plus que jamais, l'humble curé de paroisse reste un symbole de fraternité, d'une fidélité vécue au quotidien. Et son exemple marque les prêtres de son diocèse. C'est le cas d'Erwan Rosier. Ordonné en juin dernier, il a célébré sa première messe avec un calice du père Hamel. Il avoue ce matin être inspiré par ce prêtre qu'il n'a pourtant jamais connu.
C'est la simplicité qui compte. Le père Hamel, il n'a jamais fait grand-chose dans sa vie. Si on regarde avec un regard purement humain, voilà, ça a été un bon curé de paroisse. Il était heureux avec les gens. Il a célébré des sacrements comme tout prêtre peut en célébrer. Et d'ailleurs, ce martyr lui-même, bon, bah voilà, c'est une messe de semaine avec une dizaine de personnes très âgées. Et si on regarde de l'extérieur, il n'y a rien d'extraordinaire dans sa vie. Mais si Satan a choisi de s'attaquer à ça et à cette messe de semaine et à cette petite communauté vieillissante, c'est certainement qu'il y a un signe pour nous derrière.
Et quel serait ce signe dont vous parlez justement ?
Je pense que c'est la puissance de la simplicité, la puissance de la célébration des sacrements, le sens de ce qu'est pour être chrétien et dans la Bible de ce qu'est être le sel de la terre, de pouvoir offrir toute la joie, toutes les peines, toutes les souffrances en action de grâce au Seigneur. Et je pense que à travers l'attaque de cette messe de semaine, de ce prêtre et de ces personnes âgées, c'est vraiment le mystère de l'Eucharistie lui-même, tel qu'il est célébré un peu partout dans le monde. C'est ce mystère-là qui a été attaqué.
Alors, votre lien avec le père Jacques Hamel, on peut dire qu'il est en partie dû au fait que vous êtes originaire du même lieu. Mais est-ce qu'il vous est propre, ce lien, ou bien est-ce que vous constatez que vos confrères du diocèse de Rouen le partagent également ?
Je pense qu'il est partagé par beaucoup. On est sur une terre en Normandie où on parle pas beaucoup, on vit beaucoup les choses à l'intérieur. Hein. L'autre grande figure de sainteté qui parlera, j'espère, à tout le monde, c'est Sainte Thérèse de Lisieux. Et c'est la même chose, c'est des vies cachées qui, vues de l'extérieur, n'ont pas donné grand-chose, entre guillemets, mais qui, après leur mort, parlent énormément. Et c'est un peu ça, l'esprit normand et l'esprit de cette terre. Et du coup, dans le presbytérium, voilà, on peut pas dire qu'on fasse des conférences Jacques Hamel ou des exploits spirituels sur la spiritualité du prêtre du diocèse de Rouen à partir de la figure de Jacques Hamel, etc., etc. Mais tous, intérieurement, on reste marqué par cet homme parce que on partage beaucoup de sa vie et beaucoup de ce qu'est sa façon de célébrer, de s'engager auprès des gens et de s'engager dans la fraternité presbytérale.
Est-ce que de votre expérience, de votre vie quotidienne, est-ce que vous diriez que le sacrifice du père Hamel parle également à des non-croyants ? Et est-ce que cela stimule d'une certaine manière votre élan dans l'évangélisation ?
Si on croit les sondages, le martyr du père Hamel n'est pas ce qui est resté le plus dans la mémoire des Français. Hein. Il y avait les attentats à Nice juste avant qui ont peut-être un peu plus marqué. Mais ceci étant dit, ça ne veut pas dire que les non-croyants ne regardent pas les croyants et ne peuvent pas voir la façon dont eux vivent ce martyr. Pour moi, ça aide et ça enrichit beaucoup ma foi et mon engagement dans ce qu'est être prêtre diocésain aujourd'hui. Encore une fois, si on regarde purement humainement, même cette église de Saint-Étienne-du-Rouvray, on peut dire que c'est pas forcément très joli, que les murs auraient besoin d'un nouveau crépi et d'un nouveau coup de peinture. Mais en fait, spirituellement, quand on regarde la communauté chrétienne qui l'habite, quand on entend les témoins de l'assassinat du père Hamel, ceux qui étaient là et qui vous parlent de cette église, à ce moment-là, dans leur regard, vous pouvez voir ce qu'est la vie dans l'Esprit Saint. Et je pense que c'est ça qui parle et à un prêtre diocésain et qui cherche à s'engager et à des non-croyants à l'extérieur.
Voilà l'héritage du père Jacques Hamel, un témoignage du père Erwan Rosier, prêtre du diocèse de Rouen en France, que Radio Vatican met à l'honneur ce matin. C'est la fin de ce journal. Merci de votre écoute fidèle. Je vous retrouve à 13h heure de Rome pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité vaticane et internationale. D'ici là, très belle matinée à toutes et à tous.